Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, poème au lac. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Nous sommes en Touraine, au château de Roux, près de Chauzet-sur-Loire. En 1830, le château est occupé par Léo Lagarde et sa fille Muriel. Léo Lagarde est au salon avec son ami, le roi d'Ancourt, qui est de passage dans la région. Il est grossiste en vin. C'est un homme petit et gros, chauve, et fait bien ses 55 ans. Il porte une redingote marine et un pantalon gris. Léo Lagarde est un homme grand, maigre, les cheveux gris et le visage osseux. Il porte un pantalon et une redingote grise. Ils sont assis tous deux, l'un en face de l'autre, devant la cheminée. Le roi d'Ancourt, après une pause, demande à son ami :
Et que fait ta fille de ses journées ?
Elle écrit beaucoup.
Qu'écrit-elle ?
Des poèmes, des contes.
Il paraît qu'elle a du talent.
Une femme qui écrit, ce n'est pas bien. Elle risque d'y perdre sa réputation. Et puis, c'est une occupation de vieille fille. Il faut lui déconseiller de persévérer dans ce domaine.
Il n'y a que cela qui l'intéresse.
Bien sûr, c'est normal dans un endroit aussi solitaire. Mais si tu venais à Paris, là, elle aurait d'autres occupations.
Je n'ai pas envie de retourner à Paris.
Même pour ta fille?
Elle fera ce qu'elle voudra une fois que je serai mort.
Si tu crois trouver à la mariée ici...
Nous verrons plus tard.
La porte du salon s'ouvre. C'est Muriel, une grande jeune fille de 17 ans. Grande, mince, les cheveux blonds qui ondulent. Elle a une peau très blanche, de grands yeux bleus et une bouche qui sourit toujours. Elle est habillée d'une robe blanche.
Elle s'approche de son père. Elle tient à la main une lettre.
« Père, l'on a porté cette lettre pour vous. »
Il la prend.
« Tu aurais pu attendre que je sois seul. »
Elle rougit et baisse la tête. Monsieur Leroy d'Ancourt se lève.
« Je dois vous quitter. »«
Déjà ?»«
Oui, j'ai une longue route à faire avant la nuit. »
Léon Lagarde se lève aussi.
« Je vous raccompagne, mais la prochaine fois, vous resterez avec nous. »« Quelques jours, c'est d'accord. »«
Je vous le promets. »
Et ils sortent du salon. Muriel va à la fenêtre. Il regarde la campagne environnante. Juin a été pluvieux, mais l'approche de l'été a ramené le soleil. Quart d'heure plus tard, la porte s'ouvre et la fait retourner. Son père revient la rejoindre avec à la main la lettre ouverte. Il s'approche d'elle.
C'est ta grand-mère, Marie. Elle vient passer un séjour avec nous, avec le fils d'une de ses amies. Ils arrivent dans 3 jours. Je suis heureux pour toi. Tu auras de la compagnie.
Je ne m'ennuie pas, père.
Tu passeras moins de temps à écrire. Il faudra t'occuper de nos autres. Il paraît que le jeune homme est de santé délicate. Nous le distrairons, n'est-ce pas?
Muriel passe les 3 jours avant l'arrivée des invités à préparer leur chambre. Cela l'enchante guère d'avoir des invités, mais elle est tout de même intriguée par le jeune homme. À part quelques séjours faits à Paris avec son père, elle est toujours restée au château. Son éducation, après la mort de sa mère, lorsqu'elle avait 7 ans, a été faite par des gouvernantes et précepteurs, ce qui fait qu'elle a eu jusqu'à présent une vie quasiment solitaire. Mais cela ne la chagrine pas, car elle veut être écrivain. Cette passion l'a prise en lisant à 15 ans Madame de Lafayette. Son père est guère enchanté d'avoir des hôtes, mais il est obligé de leur faire bon accueil, car c'est sa mère qui les fait vivre avec une rente annuelle qu'elle leur sert.
les invités arrivent dans la matinée. La grand-mère, Marie Lagarde, est une petite femme toute menue, avec des cheveux gris en chignon et un visage ridé comme une bonne cuite. Elle porte une robe noire. Richard Fayard est un jeune homme de 20 ans, grand, mince, le visage pur dont le regard semble être hors du monde. Il est habillé d'une redingote et d'un pantalon blanc. Muriel, en le voyant, est surprise par ce regard qui ne vous voit pas. Il lui répond à peine à son salut. Il se dit que cela va être gai d'avoir un invité comme celui-là. Malgré tout, et aussi à cause de son étrangeté, elle ne cesse de l'observer durant le dîner. Après le dîner, ils vont tous au salon. La grand-mère s'assoit à côté des Léons. Marie dit à Léo :
Il ne faut pas faire attention à Richard. C'est un rêveur. Il écrit des poèmes. Il a été malade cet hiver. Sa mère est une de mes amies. Elle m'a demandé si je pouvais lui faire changer d'air. Elle ne peut pas bouger de chez elle. La pauvre femme a eu une attaque.
J'en parlerai à ma fille pour qu'elle puisse lui rendre son séjour chez nous agréable.
Je vous en remercie. Si elle pouvait le sortir de sa rêverie.
Ce sont sûrement les livres qui lui ont tourné la tête.
Que voulez-vous? Les jeunes à notre époque.
Demain matin, le père va voir sa fille dans sa chambre. Elle est déjà levée et habillée.
Je suis venu te parler de notre autre Richard. C'est un gentil garçon qui a eu quelques ennuis de santé cet hiver. Il est un peu rêveur, comme tu as dû t'en rendre compte. C'est dû à son côté poète. Je serais très heureux si tu pouvais rendre son séjour agréable.
Je ferai de mon mieux, père.
Petit déjeuner qu'ils prennent ensemble dans la salle à manger, Muriel demande à Richard s'il désire qu'elle lui montre le parc.
« Non, merci, mademoiselle. J'aime mieux me retirer dans ma chambre. »
« Après un temps aussi splendide, vous voulez vous enfermer? C'est presque un crime, même si c'est pour écrire des poèmes. »«
Qui vous dit que j'écris des poèmes ?»«
Mon père. Moi aussi j'écris un peu. »
Mais Richard s'éloigne. C'est décidément un mufle, ce garçon. Il lui dit tout haut.
On n'écrit pas de poèmes en restant enfermé avec soi. Faut vivre, connaître la nature.
Elle ouvre ses épaules et sort au jardin.
Beau aujourd'hui. Oublions ce jeune homme et faisons une bonne promenade.
Mais le plaisir de la promenade est troublé par l'irritation qu'elle a eue à cause de Richard. Ses pensées, malgré elle, reviennent toujours à lui. Et malgré elle, elle se sent surtout irritée parce qu'elle n'a pas pu chercher à sympathiser avec elle. Cela lui fait beaucoup de peine, car elle aurait tellement aimé qu'il fasse attention à elle. Et cela l'inquiète aussi. Peut-être ne suis-je pas aussi belle que les jeunes filles qu'il a connues à Paris. Me trouve-t-il un air un peu trop simple, rustique? Ne suis-je pour lui qu'une jeune fille de la campagne? Il est vrai que je ne suis pas d'une très grande beauté. Les garçons ne cherchent peut-être un autre genre de fille. Et si je ne peux plaire aux garçons? Tout en étant dans ses pensées, elle ne s'est pas aperçue qu'elle est allée bien loin. Elle s'est retrouvée à la lisière d'une forêt où se trouve un lac un peu plus loin. On voit un château du 18e qui semble abandonné. Avant de s'en retourner, elle va s'asseoir un moment sur un rocher au bord du lac. Mon père m'a dit que du temps où les propriétaires du château y habitaient, il y avait sur le lac des cygnes blancs. Par un jour d'orage, un des fils du propriétaire, le plus jeune, a été retrouvé noyé dans ce lac. Les cygnes entouraient son corps. Il avait, je crois, 18, 17, 18, je ne sais plus. Il était tout de blanc vêtu. Pourquoi s'est-il noyé? Il avait une étrange mélancolie, paraît-il, et passait des heures au bord du lac. Qu'en pensait-il? Bien, voilà l'idée d'un beau poème. Elle se lève, regarde encore une fois le lac. Je l'appellerai le jeune homme au lac. Et s'en retourne. Et le soir même, dans sa chambre, elle commence à écrire son poème. Au fur et à mesure qu'elle écrit, elle se rend compte que le personnage du jeune homme prend les traits de Richard. À mesure qu'elle avance, elle sublime Richard, et il prend une proportion romantique telle qu'elle en devient amoureuse. Elle en fait un être idéal comme elle en rêve. Jeune homme au lac, Richard est mélancolique et rêve d'amour, ne supporte pas la vie, poursuit une quête à l'amour qui le mènera à la mort. À 2 heures du matin, elle a presque fini son poème. Elle se couche et s'endort. Mais ses rêves sont trouvés par Richard et les cygnes. lendemain matin, elle se réveille à 8 heures. La chambre baigne de soleil. Ses premières pensées vont vers son poème. « Je vais le finir près du lac. » Elle se lève. De sa chambre une demi-heure plus tard, elle a à la main le cahier où elle a écrit son poème. Elle descend au rez-de-chaussée pour aller dans la salle à manger. Avant d'entrer dans la salle à manger, elle dépose le cahier sur une table au salon. Plus tard, Richard entre dans le salon. Il voit sur la table le cahier, l'ouvre et le prend. Et va s'asseoir pour le lire. Il trouve le poème très beau et en le lisant, il s'identifie au personnage. Un quart d'heure plus tard, la porte du salon s'ouvre. C'est Muriel. Elle s'approche de lui furieuse. Donnez-moi cela. C'est à vous ? Il le lui donne. C'est très joli votre poème. Elle rougit et quitte la pièce. Mais à peine a-t-il quitté la pièce qu'elle se dit : c'est ridicule ce que je fais. Il est gentil de m'avoir dit qu'il aimait ce que j'avais écrit. Il est dans le parc. Tout en marchant, il se dit « C'est vraiment très beau ce qu'elle écrit. Et puis, c'est une charmante jeune fille. La première fois que je l'ai vue, je n'ai pas fait attention à elle. J'ai mal agi. Je n'aurais pas dû lire ce cahier. Pour me faire pardonner, je vais lui lire mes poèmes. » Qui passent tous au salon, Richard s'approche de Muriel qui est assise sur une chaise à lire.
Mademoiselle,
elle lève la tête.
Oui, je suis venue m'excuser pour ce matin. Ce n'est rien, moi aussi j'étais un peu brusque avec vous. Pour me faire pardonner, je vous ai amené quelques-uns de mes poèmes. Vous pouvez les lire si vous voulez. »
Il lui tend son cahier à couverture verte.
« Je veux bien, merci.
Asseyez-vous à côté de moi. »
C'est ce qu'il fait.
Et il lui tend le cahier. Elle l'ouvre.
L'écriture est nerveuse, presque illisible. Les lettres sont à peine formées. Mais elle arrive à lire.
La première des choses qu'elle voit, c'est les fautes d'orthographe et de français. Elle passe outre et essaye de rentrer dans l'univers de Richard.
Crève, crève, bête. Pourquoi ne crèves-tu pas?
Crève, que ton corps devienne la peau des charognes. Crève, crève.
Regarde, je t'ai tout pris.
Il ne te reste rien.
Je t'ai fait perdre toutes tes illusions, tous tes espoirs. Regarde tes mains. Regarde autour de toi. Tu n'as plus rien.
Te souviens-tu, lorsque tu étais jeune, tu y croyais, à la vie. Tu te croyais fort, plus fort que moi. Orgueilleux. Tu croyais changer le monde, le modeler à ta façon, jouer à l'apprenti sorcier. Au début, comme pour les autres, ça a été dur de t'enlever tes illusions.
Et puis, tu as appris à courber la tête. Regarde-toi dans ce miroir.
Vois comme tu penches la tête en avant. Vois tes rides, ta peau rugueuse comme la terre.
Tu es terre et tu retournes à la terre. Ta peau devient terre.
Tu vois tes rides, ce sont toutes tes désillusions, les souffrances.
Tu n'es plus qu'un tas de douleurs.
Pour que tu puisses vivre et accepter les souffrances, je t'ai donné un poison terrible qui tue à petit feu d'une façon sadique. Ces souffrances sont terribles.
C'est l'espoir.
Grâce à ce poison, tu as tout accepté.
Que sont devenus tes amours?
Elles sont tombées en poussière.
Dans la vie, tout n'est qu'illusion.
On se bat pour posséder, pour aimer. Mais l'on possède et l'on n'aime que du vent. Crève, crève.
Avant que tu ne meures, je vais te faire souffrir une dernière fois. Je vais te faire regretter cette chaîne de vie que tu as menée.
Crève, mais crève donc.
Mais qu'ont donc tes yeux? Pourquoi sont-ils si lumineux?
Crève, je t'ai enlevé toutes tes illusions.
Crève, crève, mais crève donc.
Tu ne dois plus avoir d'espoir. C'est fini.
Mais qu'est-ce que cette lumière qui vient de ton âme?
Pourquoi joins-tu les mains?
Ton corps s'est-il penché?
Non.
Tu ne vas pas avoir l'espoir d'un au-delà tout de même.
Cette chienne de vie ne t'a pas suffi.
Il te faut l'espoir d'une autre vie.
Mais crève, crève. Crève donc!
Pourquoi ne crèves-tu pas?
Je n'en finirai donc jamais avec toi, espoir!
Espoir! Quand crèveras-tu?
Elle referme le cahier.
C'est très beau.
C'est vrai, cela vous a plu?
Oui, beaucoup. Je vous en ferai d'autres.
Vous en avez beaucoup écrit?
Oui, assez.
Votre poème, vous aussi, est très beau. Demain, je vous montrerai le lac.
Le lendemain, ils vont s'asseoir au bord du lac. Muriel est heureuse. Bien sûr, ce qu'il écrit n'est pas formidable, mais il est bon et doux. Désormais, il passe leur après-midi à se promener dans les bois en parlant poésie. Richard la trouve très belle et gentille. Mais il ne sait pas comment lui montrer son attachement et il se sent auprès d'elle des poussées de fièvre qui le gênent beaucoup. C'est la première fois qu'il fréquente une jeune fille. Depuis quelques années, il a des rêves où les jeunes filles lui donnent envie de les posséder, de les connaître. Mais comment ? Muriel ne se pose pas de questions, elle sait qu'il faut attendre. Un jour, elle manque de tomber, elle s'est retenue contre lui. Il a senti sa poitrine et son odeur, cela l'a fait rougir. Une autre fois, elle lui a donné sa main pour qu'il l'aide à sauter une flaque d'eau. Elle l'a lui laissée, et depuis ce jour, elle lui donne toujours la main. Regardant partir tous les deux se promener, s'est réaperçu du rapprochement des deux adolescents. Il s'en inquiète un peu et risque à parler à la grand-mère. Elle est au salon à broder. Il s'approche d'elle.
Je trouve que Muriel et Richard sont très amis, peut-être un peu trop. Y aurait-il pas danger ?
« Ne craignez rien, mon ami. Richard est un jeune homme très bien, un peu rêveur, certes, mais sa famille est une famille très honorable. »
Le temps passe très vite, mais les jeunes gens ne le voient pas passer. Un matin, à son petit déjeuner, Richard reçoit une lettre de ses parents. Disant de revenir, Richard est effondré.
« Que se passe-t-il ? »
demande la grand-mère.
« Ma mère me demande de rentrer. »
Muriel devient toute pâle.
La grand-mère dit « Nous partirons demain matin. »
Les enfants sont effondrés. Promène au jardin.
Qu'allons-nous devenir ?
Dit Muriel.
Nous écrirons.
Oui,
Richard partent. Des lettres simples et tendres. Richard, à Paris, se languit de Muriel et s'affaiblit. Sa mère s'inquiète. Très belle et gentille, mais il ne sait pas comment lui montrer son attachement et il se sent auprès d'elle des poussées de fièvre qui le gênent beaucoup. C'est la première fois qu'il fréquente une jeune fille.
un peu rêveur, certes, mais sa famille est une famille très honorable.
Le temps passe très vite, mais les jeunes gens ne le voient pas passer. Un matin, à son petit déjeuner, Richard reçoit une lettre de ses parents. Disant de revenir, Richard est effondré.
« Que se passe-t-il ? »
demande la grand-mère.
« Ma mère me demande de rentrer. »
Muriel devient toute pâle.
La grand-mère dit
« Nous partirons demain matin. »
Les enfants sont effondrés.
Promène au jardin.
Qu'allons-nous devenir ?
Dit Muriel.
Nous écrirons.
Oui.
Richard part.
Des lettres simples et tendres. Richard, à Paris, se languit de Muriel et s'affaiblit. Sa mère s'inquiète. Elle s'est aperçue qu'il écrivait toutes les semaines des lettres. Un jour qu'elle reçoit la grand-mère de Muriel, Marie Lagrange, elle lui demande
« Je suis inquiète pour mon fils. Il s'affaiblit.
J'ai remarqué qu'il écrivait, mais je ne sais pas à qui. A-t-il fait des connaissances durant les vacances ?»«
Je dois avouer que ce doit être ma petite fille Muriel. Il était très lié pendant les vacances avec elle. »
« Pensez-vous qu'il a un sentiment très fort pour elle ?»«
Oui. » Mais ne craignez rien, c'est une jeune fille, très bien.
Merci de m'en avoir parlé.
La mère de Richard s'est enfermée dans sa chambre pour réfléchir. C'est une femme de 38 ans, grande, mince, blonde et assez jolie. Elle porte une robe vieille or. Après avoir réfléchi, elle va voir son fils dans sa chambre. Il est alité. Elle va s'asseoir sur une chaise près du lit.
je vais être direct avec toi et te demander si ta mélancolie est due au sentiment que tu as pour Muriel. » Richard fronce les sourcils. « Il vaut mieux que tu me dises ce qui te tracasse si c'est cette jeune fille, j'ai de bonnes dispositions envers elle. »
« Oui, mère, je languis d'elle.
L'aimes-tu ? »
« Oui.
Je veux ton bonheur, mon enfant. Si tu veux te marier avec cette jeune fille, je ne suis pas contre. De toute façon, tu ne manqueras pas d'argent, vu la rente que je te laisse. » Madame Fayard n'a que son fils. Elle a pris habitude, depuis la mort de son mari, il y a de cela 10 ans, de prendre des dispositions seule. Et elle veut à tout prix le bonheur de son enfant. Une semaine plus tard, elle écrit au père de Muriel, lui annonçant que son fils aime sa fille et qu'il aimerait l'épouser. Le père ait reçu la lettre, il va en parler à sa fille. Muriel est très heureuse et émue.
« Tu veux l'épouser ?»«
Oui, de tout mon cœur. »
Le mariage aura lieu dans 6 mois. En attendant, les fiancés se voient souvent. C'est Richard qui va la rejoindre. Ils font des projets d'avenir. Richard rêve d'être grand poète. Elle lui promet de l'aider. Malheureusement, Richard est souvent fatigué. Il s'épuise vite par lit. On le soigne avec du vin chaud et des sangsues. Mais ses faiblesses n'inquiètent personne. L'on a présenté des fiancés au cours d'un bal chez Muriel. Tous les habitants du village étaient présentés.
Je viens de chercher ma pompe au gazon.
Le temps passe, le jour du mariage arrive, il a lieu chez Muriel.
Thank you. pas de faire des invitations à souper pour ce soir?
Oui.
Cette fois, invite aussi les femmes. Mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu afin d'unir dans le Saint-Sacrement du mariage cet homme et cette femme.
Une fois que la fête a été finie, Muriel et Richard se sont retrouvés dans leur chambre. Richard était très fatigué. Ils ont passé leur nuit de noces comme frères et sœurs. Demain, il pleuvait. Ils sont partis pour la Grèce. Le voyage fatigue beaucoup Richard et Muriel passe son temps à le soigner. Les hôtels sont précaires, les gens sauvages. Restés une semaine, puis sont rentrés en France. Ils habitent un petit appartement à Paris, dans une maison cossue dans le quartier du Marais. À son retour, Richard s'est alité. Muriel est désespérée. Elle fait venir des médecins qui lui disent qu'il n'y a rien à faire.
« C'est le sang qui est très faible, lui dit-on. »
Elle passe sa journée auprès de lui dans sa chambre. La plupart du temps, il a de la fièvre.
Thank you.
que j'ai jamais pu le courage d'écrire, que je ne serai jamais un grand poète. J'aurais tant aimé.
Alors Muriel, parce qu'elle l'aime et qu'elle veut lui apporter une grande joie,
tu sais, j'ai pensé à une chose. Si tu le permets, je vais recopier tes poèmes et les faire éditer. Cela te ferait plaisir?
Oui, bien sûr. Mais comment feras-tu?
Laisse-moi faire.
Les papiers de son mari et tous les jours elle les recopie, corrige. Elle a pris les écrits de son mari et tous les jours elle les recopie et les corrige. Pendant 2 mois, elle ne fait que cela, enfermée, matin et soir, dans sa chambre. À part cela, elle va le voir et elle essaye de le distraire en lui parlant de ses poèmes. Une fois que son travail a été fini, les poèmes ont belle allure. Elle les présente à un petit éditeur. Il accepte de les imprimer à compte d'auteur. Un mois plus tard, elle montre le livre à son mari. Il est au lit.
Voilà tes poèmes. Et on l'a fait mettre dans toutes les librairies de Paris.
Il ouvre le livre.
Mais tu m'as trahi. Tu as trahi mes poèmes. Je te déteste.
Il lâche le livre qui tombe à terre. Et mort.
Muriel est effrayée, horrifiée, prise de remords. C'est ma faute.
Six mois plus tard, Muriel est retournée chez son père. Elle porte une robe noire et marche dans la campagne. Elle n'écrit plus, son visage a maigri. Elle entend à longueur de journée la dernière phrase de son mari. Le mari qui l'a laissée vierge.
C'est ma faute.
Sans s'en rendre compte, elle est arrivée vers le lac.
Le lac du jeune homme,
dit-elle. L'orage, elle s'approche du bord. Le ciel s'assombrit. Seule une boule lumineuse qui vient de l'horizon reflète dans le lac. En face de cette boule apparaît 4 cygnes blancs. Leur blancheur est lumineuse, qui semble glisser sur l'eau, tout en la laissant lisse. Muriel les regarde venir à elle. Elle se dit,
comme le jeune homme.
Le tonnerre éclate. Il tombe quelques gouttes. Muriel regarde toujours les signes.
Je viens.
Elle entre dans l'eau. Elle ne sent pas sa froideur. Elle perd pied. Les signes l'entourent, s'enfoncent et remontent à la surface. Laisse son corps suivre le courant. Entouré des cygnes. L'orage se fait de plus en plus violent. Vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Le poème au lac. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement.